Maître Douglas Ornung, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat en charge de la plainte qui a été déposée par un ancien employé d'HSBC contre la Confédération pour avoir livré son nom aux autorités américaines.
Oui.
Et dernièrement, je crois hier, le tribunal pénal fédéral vient de donner tort à votre client.
Il a effectivement écarté le recours qui avait été fait suite au classement de la plainte pénale par le ministère public de la Confédération.
Donc toutes les voies de recours sont terminées à ce stade-là.
S'agissant de l'aspect pénal, oui.
Alors, quels ont été les arguments du tribunal finalement?
Alors, les arguments du tribunal fédéral ont été à la fois formels et au fond. Le tribunal pénal fédéral a considéré que le plaignant ne pouvait pas se plaindre de violation des articles 271 et 273 du code pénal, c'est-à-dire renseignement à l'étranger pour l'essentiel, parce qu'il n'a pas démontré qu'il y avait un dommage. On avait bien dit dans le recours qu'il y avait un dommage certain puisque l'intéressé ne pouvait même plus sortir de Suisse sauf à s'exposer à pouvoir être extradé ou pouvoir être inculpé ou pouvoir être l'objet de difficultés pénales venant des États-Unis. Le tribunal pénal a considéré que rien n'était démontré à ce sujet et que par conséquent il ne pouvait pas se plaindre de la violation de ce type de disposition pénale, et c'était quand même sur ces bases-là, pour l'essentiel, que le recours avait été déposé. Pour le reste, il considère que les données qui ont été communiquées ne sont pas sensibles au point de devoir ne pas être communiquées et que la contrainte de devoir rester en Suisse, finalement, était annihilée par le fait que le Conseil fédéral avait pris sa décision le 4 avril 2012 d'autoriser la banque à transmettre ses documents et ses données dans la mesure où c'est autorisé. Eh bien, le tribunal pénal a considéré qu'il n'y avait donc rien à poursuivre s'agissant de cette contrainte de devoir rester en Suisse. Donc, c'est pour l'essentiel ce qui a été dit. Pour l'essentiel, ce qu'on disait dans le recours, c'est que précisément cette décision du 4 avril d'autoriser la transmission des données était parfaitement nulle, puisque le gouvernement a quand même comme mission première d'exécuter les lois et non pas de les enfreindre. Et dans la mesure où un État étranger demande des informations à la Suisse, eh bien, il y a des règles à suivre qui s'appellent les règles sur l'entraide internationale, qu'elles soient pénales ou administratives. Et ces règles donnent notamment la possibilité aux intéressés de pouvoir s'y opposer, de pouvoir notamment s'adresser à un juge. Or, avec cette décision qui a été prise par le Conseil fédéral en avril 2012, toutes ces règles sur l'entraide n'ont pas été respectées. Donc, l'intéressé n'a pas pu faire valoir ses arguments, n'a pas pu non plus s'adresser à un juge avant que ces données ne soient communiquées. On a considéré qu'il s'agissait là d'une grave violation du droit par l'organisme exécutif du pays, le Conseil fédéral. On n'était pas seul de cet avis, puisque l'ensemble de tous les professeurs de droit qui se sont exprimés dans la presse depuis une bonne année ont tous marqué de sérieuses réserves sur cette façon de procéder, mais le tribunal pénal fédéral a dit qu'il n'y avait pas de raison de revenir sur cette décision. Il s'agit d'une décision et qu'il ne pouvait pas être revu dans le cadre de la procédure pénale, d'une éventuelle procédure pénale, la validité de ce type de décision, qui au surplus pouvait se comprendre vu les pressions extraordinaires que les Américains faisaient contre les banques suisses et en particulier contre HSBC. En bref, le tribunal pénal fédéral a repris une argumentation qui avait déjà été donnée par le tribunal fédéral il y a plus d'une année dans le cas UBS, où là aussi le tribunal fédéral avait dit que l'UBS était une banque d'importance systémique et qu'on ne pouvait pas se permettre qu'elle tombe et que dans ces conditions-là, le gouvernement pouvait prendre des mesures qui n'étaient pas forcément conformes à la loi. La difficulté, c'est que pour cette affaire UBS, le tribunal fédéral avait bien dit que c'était des circonstances tout à fait particulières, le risque systémique de la banque. Ici, on se retrouve exactement dans le même genre de situation. Il y a des menaces dans l'espèce des menaces américaines contre certaines banques, notamment contre HSBC. Franchement, de dire qu'HSBC a une situation ou une importance systémique en Suisse, c'est quand même pour le moins douteux, mais c'est en tout cas ce que le tribunal pénal fédéral a dit. Donc il a pratiquement copié ce que le tribunal fédéral a dit pour l'UBS, alors même que le tribunal fédéral avait dit que c'était des circonstances tout à fait particulières. On peut voir ainsi que les circonstances particulières se répètent et qu'elles ne sont plus du tout particulières.
Donc on a quand même cette impression que les grandes banques et le pouvoir se tiennent la main et marchent de concert comme ça sur un chemin parsemé de fleurs de cerisier.
Je crois que tout à fait clairement, le gouvernement est sous influence, des grandes banques. On ne dit pas la place financière suisse, hein. C'est vraiment quelques grandes banques, qui font pratiquement ce qu'elles veulent et qui dictent leur volonté au gouvernement.
Mais alors, est-ce que la direction de ces mêmes banques n'est pas tenue quand même au respect de la loi sur la protection des données? Est-ce que le fait de travailler chez quelqu'un nous rend susceptibles d'avoir notre nom livré au titre d'employé auprès de n'importe quelle autorité étrangère?
Alors en principe non, n'est-ce pas? Le principe du droit suisse, c'est que l'employeur doit notamment respecter la personnalité de son employé, et donc dans le respect de la personnalité, ça c'est le droit du code des obligations, des rapports de travail, on doit respecter la sphère privée et on doit respecter la personnalité de son travailleur, sans quoi on peut être attrait devant le tribunal des prud'hommes et puis à obtenir peut-être quelques indemnisations. Ce qu'il faut voir. UBS a été contrainte de payer 780 millions de dollars de pénalités aux États-Unis pour se sortir des griffes américaines, parce que les Américains aussi envisageaient de poursuivre pénalement UBS aux États-Unis. Donc l'UBS en est sorti, entre guillemets, avec 780 millions de dollars d'amende, plus on a dû remettre 4 750 noms de clients pour Américains à l'UBS pour satisfaire les Américains. Bien. Les Américains reviennent à la charge maintenant avec 13 banques, parmi lesquelles HSBC, Crédit Suisse, Julius Baer de Banque Cantonale. Et se plaignent notamment, enfin argumentent notamment que ces banques sont d'autant plus réprimandables qu'elles ont accueilli des citoyens américains ou des clients américains qui précisément quittaient l'UBS quand ça commence à devenir trop chaud. Donc aux yeux des Américains, ces banques-là nouvelles, parmi lesquelles HSBC, Crédit Suisse, Julius Baer, etc., ont une culpabilité d'autant plus forte qu'elles sont permises d'avoir pour politique d'accueillir des Américains qui partaient de l'UBS. En bref, ça veut dire que ces grandes banques s'exposent à devoir payer une amende extrêmement forte, en tout cas plus forte que les 780 millions que l'UBS a dû payer. Alors combien? Eh bien, c'est évidemment toute la grande négociation que ces banques sont en train de faire aux États-Unis, mais on peut se dire 1 milliard et plus, hein, disons 1 250 000 000. Alors quand vous êtes la banque et que vous vous exposez à devoir payer des sommes aussi considérables que ça, même si ce sont des grands établissements qui peuvent se le permettre, ces établissements ont bien sûr tout intérêt à réduire autant que possible l'amende. Et donc en collaborant, en donnant tout ce que les Américains veulent, en montrant leur bonne volonté, en se couvrant de sang, nous avons fauté, nous regrettons, nous collaborons, etc., eh bien elles peuvent ainsi espérer réduire leur amende, disons, 1 milliard au lieu d'1 250 000 000, par hypothèse. Mais en faisant ça, vous économisez 250 millions. Bon. En contrepartie, qu'est-ce que vous avez? Le droit suisse. Ouf, le droit suisse. Vous le violez autant que vous voulez. De toute façon, quelles sont les conséquences? Les conséquences, comme je le disais, quelques petits procès devant les prud'hommes pour ceux qui oseraient se plaindre contre leur employeur. Ils seront déjà pas beaucoup parce qu'ils auront peur de perdre leur place. De toute façon, l'indemnité sera dérisoire. Au pénal en Suisse, et on vient de voir qu'il n'y aura de toute façon pas de pénal, mais au pire, elle risquait une amende de 5 millions de francs suisses. Donc d'un côté, vous économisez 250 millions de dollars. cas, avec d'un autre côté le risque très ténu, maintenant inexistant puisqu'il n'y a plus de pénal, de devoir payer 5 millions. Si vous êtes la banque, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous moquez totalement du droit suisse et puis vous faites tout ce que les Américains demandent. Et ça, on le comprend bien volontiers puisque c'est un calcul tout simplement économique. Là où on avait un peu plus de mal de comprendre, c'est que si on comprend ce calcul économique de la banque, on voyait mal comment le gouvernement pouvait lui-même rentrer dans ce type de jeu où finalement les employés sont non seulement trahis par leur employeur, c'est normal, c'est HSBC, c'est les grandes banques, bon, mais en plus avec l'accord du gouvernement, ça paraissait quand même particulièrement grave, mais il faut constater que la décision du tribunal pénal fédéral dit que tout cela a été fait dans les normes et qu'il n'y a absolument rien à critiquer. Voilà la situation.
Une certaine crainte pour les banques qui ont un pied-à-terre aux États-Unis pouvait se comprendre, mais même certaines banques, comme Veglin, qui n'avaient rien de tout ça en dehors des frontières suisses, ont été menacées. Est-ce à dire que finalement le gouvernement n'est pas disposé à défendre les activités économiques qui se tiennent au sein même de son propre territoire?
C'est un peu ça. Alors le gouvernement vous dira le contraire, n'est-ce pas? C'est que précisément le gouvernement suisse veut sauvegarder autant que possible les établissements bancaires parce que c'est une des composantes importantes de l'économie suisse. Donc l'argument ou la présentation de ce que le gouvernement a fait, c'est de dire c'est dans l'intérêt même des banques et donc du pays et donc de tout le monde de faire ce qu'on a fait. Voilà.
On a l'impression finalement que cette espèce de chasse aux sorcières menée par les États-Unis est un traitement de faveur réservé en particulier aux banques suisses.
Oui, mais je crois que ça s'explique relativement facilement. C'est précisément parce que la Suisse se montre faible. Elle l'a montré par l'affaire UBS, que quand vous êtes un grand pays de l'autre côté, que vous voyez qu'il suffit de menacer pour obtenir ce que vous voulez, et bien vous continuez et puis vous menacez jusqu'à ce que vous obteniez exactement tout ce que vous voulez. Et les grandes autres places financières internationales n'ont pas eu ce même traitement, ben probablement aussi parce qu'elles ne montrent pas les vulnérabilités ou les faiblesses que la Suisse a malheureusement montrées dès l'affaire UBS. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un froncement de sourcils, que ce soit du côté de l'OCDE, que ce soit du côté des Américains, bientôt des Européens, de la France ou autres, la Suisse cède purement et simplement, sans aucune contrepartie jamais. Et donc ça finit quand même par donner une image assez claire pour les autres de se dire il suffit de taper, de se montrer ferme, fort et très persuasif pour que la Suisse cède. Et malheureusement, je crois que c'est bien l'image qui est donnée et que cette décision qui vient d'être rendue par le tribunal pénal fédéral ne pourra guère que conforter les Américains dans leur démarche, donc de continuer à exiger, exiger jusqu'à ce qu'ils aient absolument tout. Et l'image qui en ressortira pour le pays et pour les banques suisses, pour les autres pays, bah, ce sera assez logiquement de s'inspirer de ce précédent américain.
Parce que si on en croit la conseillère fédérale, Evelyne Wirmer-Schlumpf, hier soir à la télévision, elle a tout fait juste et vous la persécutez tout simplement.
Oui, je pense qu'elle peut dormir de ses deux oreilles, même avec mes persécutions. Effectivement, elle a un soutien, parce qu'elle est soutenue par les grandes banques qui lui dictent pratiquement ce qu'elle doit faire. Et elle n'en finit pas de dire qu'elle se montre ferme, qu'elle s'oppose, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle a obtenu ou qu'est-ce que le gouvernement, parce qu'il ne faut pas personnaliser, c'est pas Madame Widmer-Schlumpf en tant que telle, c'est plutôt le gouvernement, qu'est-ce qu'il a obtenu depuis 2009, strictement rien, si ce n'est d'être montré du doigt et de culpabiliser à plus pouvoir pour finalement tout donner. Et vous voyez encore ces circonvolutions qui ont été faites avec le problème de l'échange automatique. Il y a encore 15 jours, vous aviez Monsieur Audier, l'ASB et tous les grands représentants des grandes banques qui disent il est hors de question, on va surtout pas faire de l'entraide automatique ou des échanges automatiques. Et puis 15 jours plus tard, ah bon, finalement, puisque tout le monde veut, on fait. Voilà, donc ça rentre dans ce type de processus où finalement, lorsque vous essayez de négocier quelque chose, vous abandonnez déjà tout avant même de pouvoir obtenir une quelconque contrepartie, vous finissez par vous déshabiller complètement et pour ne rien obtenir en retour. Et je crois que c'est ça qui est très malheureux avec cette politique qui est chaque fois de réagir et non pas d'agir et de ne pas avoir de plan ou de vision suffisamment claire et éloignée pour pouvoir avoir un minimum de politique à suivre. La politique à suivre jusqu'à présent, c'était de tout laisser tomber au fur et à mesure qu'on vous le demande.
Et puis vous avez entendu sûrement aussi la réaction de Jean-Christophe Schwab, conseiller national socialiste, qui est aussi le président de l'association des employés de banque. Réaction assez surprenante parce que apparemment il n'a pas l'air particulièrement motivé par la défense des employés à proprement parler. Enfin, il semblerait même que les employés, à l'entendre, ne demandent pas à être défendus. Comment réagissez-vous finalement à ce genre de déclaration?
J'ai jamais très bien compris pourquoi le syndicat et Monsieur Schwab en particulier me considéraient et me considèrent toujours comme un concurrent. Donc il tient chaque fois à se démarquer des démarches que j'ai entreprises, considérant en tout cas officiellement qu'il faut faire des démarches politiques et non pas juridiques. Bon, c'est son choix. Maintenant, qu'est-ce qu'il a obtenu ou qu'est-ce que le syndicat a obtenu à ce jour? Le syndicat n'a, à ma connaissance, rien obtenu par ces démarches politiques qu'il semble vouloir privilégier. Alors c'est vrai qu'il a pris le thé avec Madame Wilmerstrom l'été passé. À part ça, franchement, je ne vois pas très bien en quoi la cause des employés a pu avancer d'un seul iota grâce à l'action que le syndicat aurait menée, mais je suis peut-être mal renseigné.
Alors la banque, c'est le vieux métier traditionnel d'un tiers de la population active suisse, c'est le débouché préféré des étudiants universitaires fraîchement émoulus. Quels conseils donneriez-vous maintenant à des jeunes qui se destinent au métier de la banque au vu de ce qui vient de se passer tout simplement?
C'est peut-être un peu plus simple, entre guillemets, pour les nouveaux que pour les anciens. Parce que les anciens, ben, il y a certains vieux mécanismes et certaines vieilles habitudes qui sont particulièrement difficiles à laisser tomber. Jusqu'à présent, donc jusqu'à 2009, on a dû, sous pression américaine avec l'UBS, renoncer à la distinction entre évasion fiscale et fraude fiscale, etc. Il y avait effectivement une situation assez florissante dans le domaine de la gestion de fortune, qui a fait notamment la fortune de Genève et qui permet ainsi à Genève d'avoir quand même des prestations sociales et des budgets particulièrement importants grâce aux impôts que cela faisait rentrer à l'époque. À l'époque, il y avait le secret bancaire, on payait pratiquement pour venir en Suisse pour le secret bancaire. Maintenant, ben, ce sera plus le cas. Et donc, maintenant, il suffira pas juste de donner son argent, mais même si le banquier en perd un petit peu, on se dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, j'avais le secret, et puis je paye pas d'impôts. Maintenant, on voit bien qu'il faudra s'acheminer, s'agissant du métier en Suisse, en tout cas, à une voie d'une clientèle qui ne va pas avant tout chercher à cacher ses avoirs à son fisc national. C'est une autre donne. On se retrouve donc dans une concurrence plus importante avec les autres places financières et certainement les revenus du secteur vont s'en trouver amoindris. Parce que si un client pouvait volontiers payer 1% de commission annuelle, parce que c'était le prix du secret pratiquement, aujourd'hui il ne paiera plus 1% parce que personne ne paye dans le monde 1% pour gérer ses avoirs. Donc il y aura une réduction de la profitabilité du métier. Par rapport à ça, il y a encore une réglementation administrative extrêmement lourde qui se met en place et qui devient de plus en plus onéreuse, tant pour les établissements bancaires que pour les gestionnaires, qui fait que on va se retrouver très rapidement avec une situation où les petits établissements, où les petits gestionnaires ne pourront simplement plus suivre, parce que les coûts d'exploitation de leur business vont être trop importants par rapport aux revenus qu'ils peuvent en tirer. En résumé, ce seront les grandes banques qui vont se reprendre le gâteau, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre des petites banques qui ne vont plus pouvoir tourner parce qu'elles devront se séparer de l'essentiel de leur clientèle non déclarée. Les grandes banques vont les reprendre, vont juste reprendre la crème des clients déclarés, et le milliard ou autre qu'elles auront à payer d'amende sera amorti dans les 2 ou 3 ans, et les actionnaires pourront toujours recevoir le même dividende sans que personne s'en aperçoive qu'elles auront dû payer 1 milliard et plus. Donc pour le jeune qui veut se mettre à son compte ou qui veut aller dans cette voie-là, il faudra, bon, c'est le cas dans beaucoup d'autres professions aussi, y compris les avocats, travailler plus pour gagner moins, alors qu'auparavant c'était une situation pratiquement de rente de famille pépère tranquille où sans faire grand-chose, vous amassiez beaucoup d'argent.
Et doit-on s'attendre, selon vous, à de nouveaux cas de délivrance de noms d'employés?
Alors, je crois que ce sera forcément le cas. Notez que ce que veulent les administrations fiscales étrangères, c'est en général pas tellement les employés, mais c'est surtout les clients. Certainement qu'il y aura de plus en plus de pression, on commence à le voir avec la France, hein, pour HSBC aussi encore, qui commence à suivre les mêmes traces que ce qui a été fait par les Américains avec l'UBS. C'est certain, à mon avis, et tant que l'image que la Suisse donne, c'est une image de faiblesse, les autres pays, notamment les pays européens qui nous entourent et les Américains, ne cesseront pas leur pression tant qu'elles n'auront pas tout obtenu.
Alors en somme, la solution est quand même politique. Il faudrait des politiques forts qui acceptent quand même de se démarquer face à ces menaces finalement.
Oui, n'est-ce pas, c'est toujours aussi un peu facile de critiquer quand on est à l'extérieur, c'est certain. Mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2009, alors que Monsieur Merz disait encore qu'il y a quelques années, le secret bancaire n'est pas négociable? Tout est tombé par terre, ou à peu près, n'est-ce pas? On ne voit que la Suisse en train de finalement courber l'échine suite à des pressions qui sont données. Vous avez vu aussi ces modifications de position à 180 ou plus de degrés s'agissant de l'échange automatique. La Suisse n'est plus crédible, simplement, n'est-ce pas? Parce qu'on sait de l'autre côté que quoi que dise la Suisse, si on y met suffisamment de coups de poing sur la table, eh ben la Suisse baste. Et donc, c'est vrai que c'est avant tout une question politique ou de politique à mener. Et je n'en finis pas de dire, depuis que j'ai pu m'exprimer un peu dans la presse sur ce type de sujet, la Suisse n'a qu'une seule voie possible. C'est effectivement de dire, nous ferons tout et exactement comme les autres grandes places financières. Vous voulez l'échange automatique? Il n'y a aucun problème. On fait le change automatique. Mais on le fait avec les mêmes outils et avec les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire que toutes les juridictions anglo-saxonnes qui privilégient et qui acceptent sans aucune difficulté les trusts, qui sont l'instrument favori idéal pour cacher son argent de manière anonyme, tant que ces juridictions-là, y compris les États-Unis, hein, avec le Delaware, continuent à accepter des trusts dont on ne sait pas qui est le bénéficiaire économique, qui a fait le trust, qui est le réel bénéficiaire de ces avoirs, et qu'on dit, ah, c'est le trust, on peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, faisons la même chose, c'est tout. Alors oui, on fait des échanges automatiques, ce sera un trust du Panama, on envoie toutes les informations au Panama qui n'en a rien à cirer, si vous me passez l'expression, et ce sera très bien. Il faut simplement dire sur la place publique et de manière claire, arrêtez de louvoyer avec un rubis qui est une usine à gaz dont personne ne veut, à dire oui, on fera l'échange automatique, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut dire là-dedans? Non, on dit oui, ok, échange automatique, mais exactement comme vous le faites. Les États-Unis ne donnent jamais d'entraide à quiconque. Lorsqu'ils ont fait la pression sur UBS en 2009, les Brésiliens et les Mexicains ont demandé aux États-Unis exactement la même chose que ce que les États-Unis demandaient à la Suisse, c'est-à-dire donnez-nous les Mexicains ou les Brésiliens qui ont des comptes chez vous. Il n'y a eu aucune réponse. D'abord parce que les États-Unis ne savent pas qui sont les réels bénéficiaires économiques des structures qui sont mises en place par des étrangers qui ouvrent des comptes chez eux. Toute l'Amérique latine est en Floride et à Los Angeles, et il n'y a personne qui veut être intéressé aux États-Unis de faire une transparence. Alors faisons exactement la même chose qu'eux.
Très bien. On espère que vous aurez été entendu en haut lieu. Douglas Hornung, avocat à Genève, nous vous remercions.